monde des étoiles avec Pulsan, l'émission radio de la Société d'Astronomie de Nantes. À la découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bonsoir à toutes et tous, bienvenue en direct sur Alternantes. Vous écoutez Pulsan, l'émission de la Société d'Astronomie de Nantes. Ce soir, une émission encore très intéressante et très variée, avec une surprise pour tous les auditeurs. Munissez-vous dès maintenant d'un papier et d'un crayon, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Ce soir, nous allons vous parler d'étoiles filantes, de miroirs, d'astrophysique, d'un mort sous l'Inquisition et de la Voie lactée. Vous aurez les détails au cours de l'émission.
Que de mystères.
Que de mystères. Hein. Sans plus attendre, je vous communique le numéro de téléphone d'Alternantes, c'est pour ça qu'il fallait aller chercher un papier, donc on le répétera dans l'émission, le 02 40 93 26 62, 40 93 26 62, et je laisse la parole à Daniel Worling qui va nous parler de la conférence de ce vendredi, et qui va surtout vous poser la question fatidique.
Voilà, on va surtout d'abord poser la question, car si vous répondez juste, vous allez pouvoir gagner des places gratuites, des entrées gratuites à la conférence de Michel Marcellin sur la structure de la Voie lactée. C'est la mystérieuse structure spirale de notre galaxie, la Voie lactée.
Alors, il faut rappeler que c'est une conférence qui aura lieu vendredi,
qui est 17.
Donc, on va parler tout à l'heure vers 22h et des brouettes. Hein. Voilà. Vous aurez plus de précision. Les brouettes,
Les brouettes cosmiques.
Les brouettes cosmiques, ouais. C'est une unité de temps assez spéciale en astronomie, là.
Le char de Zeus.
Voilà.
La brouette de Zeus.
C'est une mesure de temps importante. Et donc, le principe, c'est on va vous poser la question, on vous la reposera de toute manière. Et les 5 premiers auditeurs qui auront la bonne réponse.
Voilà.
Ils auront gagné une place.
S'ils sont 5 à gagner, hein, s'ils sont plus de 5 à répondre juste, s'il n'y en a que 2 qui répondent juste, il n'y aura que 2 places.
Hein. Tout à fait, ça va dépendre. Voilà. Il ne faut pas simplement se contenter d'appeler, il faut donner la bonne réponse. Donc, je vous rappelle le numéro de téléphone avant que Daniel vous lise la question. 02 40 93 26 62.
Alors, ne téléphonez pas avant d'entendre la question. Donc, la voici. Hormis la Voie lactée, quelles sont les seules galaxies visibles à l'œil nu depuis la Terre ? Donc je répète la question, hein. Mis à part la Voie lactée elle-même, bien sûr, qui est une galaxie, quelles sont les seules galaxies visibles à l'œil nu depuis notre planète ? Voilà, donc vous répondez, dès que vous avez la réponse, vous téléphonez au 40 02 40 93 26 62.
Ça ressemble un peu au Téléthon avec le 36 37.
Voilà. Et vous allez gagner des places gratuites à la conférence de Michel Marcellin. Si vous en gagnez 2, vous pouvez emmener quelqu'un. Hein, et puis vous pouvez faire le fier en disant « je vais à une conférence d'astronomie ». Surtout une conférence à la Société d'Astronomie. Non,
c'est quand même encore plus intéressant.
Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit à l'œil nu ? Quelles sont les galaxies qu'on voit à l'œil nu depuis la Terre ?
Voilà, on vous répétera la question, on verra bien en fonction de les gens de la technique qui nous font des gestes, si le standard explose ou pas, on verra bien. C'est bon ? Ça n'explose pas encore ? Donc maintenant, Frédéric Brignon va nous parler des Léonides. Alors Fred, c'est quoi les Léonides ?
Qu'est-ce que les Léonides ?
C'est une nouvelle marque de gâteau.
Ah, pas exactement.
Une marque de chaussures.
Des tout petits gâteaux, alors, qui viennent du fin fond de l'univers.
Ce sont des miettes.
Voilà. Bon, qu'est-ce que les Léonides ? C'est tout simplement un essaim d'étoiles filantes. Alors, pourquoi on les appelle Léonides ? Tout simplement parce que le radiant, alors le radiant, qu'est-ce que le radiant ?
C'est le point d'où elles semblent.
C'est un point imaginaire dans le ciel d'où semblent provenir ces étoiles filantes. Et ce radiant est situé dans la constellation du Lion, d'où Léonide.
Léo, voilà. Avec...
Je ne sais pas si tu comptais l'expliquer, mais tu m'arrêtes si tu comptais le dire, pour expliquer aux gens pourquoi ça semble provenir d'un point. Moi, je me suis promené des fois en voiture sous la neige. Et quand il neige, il y a un phénomène très curieux. Vous allez regarder ça à travers votre pare-brise. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous voyez tomber la neige qui tombe tout droit, eh bien, quand vous avancez avec la voiture, elle semble provenir d'un point qui est devant vous.
Tout à fait. Hein,
ouais. D'une manière comme d'un cône. Et c'est un peu ce qui se passe, puisque la Terre, elle avance à 100 000 km à l'heure.
Voilà. Alors, quelle est l'origine de ces étoiles filantes, de ces Léonides ? C'est tout simplement une comète qui a le doux nom de Temple-Tuttle, du nom de ses découvreurs en 1865. Donc, la comète... savez tous, je vais réexpliquer rapidement ce qu'est une comète. C'est, je dirais schématiquement, un noyau de neige sale qui a une orbite très très elliptique autour du Soleil et qui revient périodiquement à se rapprocher du Soleil. Et lorsqu'elle va se rapprocher du Soleil, elle va avoir, je dirais, tendance à un peu à fondre comme une boule de neige sale et va lâcher des poussières dans l'univers et sur son orbite.
Même, on peut dire même plus, puisque c'est le vide dans l'espace.
Voilà, voilà.
Alors en fait, la neige, si c'était fait de neige, mais c'est de la neige, c'est de la neige d'ammoniac, il y a plein de gaz sous forme de neige. Mais en fait, cette neige, jamais, elle ne va fondre. En fait, elle va directement devenir vapeur.
Voilà.
Vapeur de neige. Et donc,
sublimée.
Voilà.
Sublimée, voilà. Et chaque année, je dirais, la Terre croise l'orbite de la comète et rencontre ces fameuses poussières qui vont créer ces étoiles filantes. Hein. Alors ce sont des poussières, je dirais, qui tournent, qui ont des ordres de grandeur de 1 micron à 1 millimètre. Mais lorsqu'elles vont rentrer dans l'atmosphère, elles vont se consumer et donner ce qu'on appelle l'étoile filante. Donc pour la petite histoire, maintenant je vais revenir un peu quelques années en arrière parce que ces Léonides, ils ont une histoire. Ça fait 2-3 ans qu'on en entend parler. Ça a commencé, je dirais, en 1998, où là, on attendait quelque chose d'assez grandiose, parce que la comète Temple-Tuttle venait juste de repasser à proximité de la Terre. Elle a une orbite d'à peu près 33 ans, donc ça faisait 33 ans qu'elle n'était pas passée à proximité de la Terre. Et lorsqu'elle est... La dernière fois, disons, qu'elle était passée, en 1966, on avait assisté à quelque chose d'extraordinaire, une véritable pluie d'étoiles filantes, donc le 17 novembre 1966, avec près de 140 000 étoiles filantes à l'heure. Donc quelque chose de prodigieux.
Une pluie. Ça ressemble à une pluie filante, en fait.
Hein. Voilà. Et donc en 1998, je dirais qu'on s'attendait à, avec le nouveau passage de la comète, à l'arrivée, je dirais, de poussière fraîche et peut-être à un phénomène semblable.
Parce qu'il faut dire en fait que les poussières sont limitées par rapport à l'orbite de la Terre, sont sur leur trajectoire.
Sur l'orbite de la comète.
Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, plus on passe, plus on les récolte, mais au bout d'un moment, il n'y en a presque plus, parce que vu que toutes
les questions
qui soient, c'est un peu comme si on balayait.
Elles ont tendance à se diluer.
Ouais. Tout à fait. Ouais. Et puis en plus, elles se déplacent un petit peu.
Donc,
c'est vrai que l'intérêt, l'idéal, c'est de passer juste derrière la comète, et pas en même temps, parce que ça fait boum, mais juste derrière pour qu'on prenne juste les poussières toutes fraîches.
Alors en 1998, on attendait. Les astronomes professionnels avaient prédit un maximum le 17 novembre entre 18h30 et 23h. Alors là, on s'attendait à voir quelque chose de grandiose. Et l'événement exceptionnel s'est produit la veille, le matin de la nuit d'avant.
Non, ça c'est affreux parce que tout le monde se prépare
donc,
pour le jour.
Donc tout le monde se préparait à voir quelque chose de formidable ce jour-là. Et en fin de compte, il s'est produit quelque chose d'exceptionnel la nuit d'avant. Alors cet événement, on l'a suivi assez rapidement. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais à la SAN et le matin, j'ai ouvert, je dirais, la messagerie Internet. Et les premiers messages sont tombés, mais à vous faire tomber. Quoi.
Ah, c'était la folie. Hein.
C'était vraiment la folie. Il y avait des rapports d'observation donc de 2-3 heures avant et c'était vraiment exceptionnel. Les gens disaient, on a vu des bolides. Alors des bolides, ce sont des étoiles filantes très très brillantes. Des bolides aussi brillants que la pleine lune. Donc vous imaginez un peu, quand vous regardez déjà la pleine lune dans la nuit, ça éclaire quand même le paysage.
Non,
alors, une étoile filante de cette luminosité, ça, c'était vraiment exceptionnel. Les gens racontaient aussi que des étoiles filantes partaient d'un horizon et traversaient complètement le ciel pour aller sur l'autre horizon, pour finir sur l'autre horizon.
Ouais, il faut rappeler qu'une étoile filante en temps normal, que vous pouvez voir dans toute l'année, hein. Il y a les fameuses Perséides qui sont en plein mois d'août, les Léonides qui sont au mois de novembre. Et c'est vrai que normalement, une étoile filante, ça dure une fraction de seconde.
Ça dure une fraction de seconde.
Et là, vous imaginez un objet qui traverse le ciel,
ça dure quelques secondes.
Voilà, donc c'est la folie.
Et certains racontaient même que ces étoiles filantes laissaient des traînées derrière elles, des traînées qui étaient visibles pendant une vingtaine de minutes. Donc c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel.
En fait, c'était un peu plus grosses poussières, hein, voilà. La différence.
Alors, tous les astronomes ont cru ce matin-là, en lisant tous ces mails, se dire bah, qu'est-ce que ça va être le soir d'après, le soir supposé
le fameux soir
du maximum. Et c'est là qu'on a été très très déçus, parce que en réalité, le maximum, il a bien eu lieu, je dirais, aux heures prévues, mais il n'a rien eu à voir par rapport à ce qui s'était produit le matin d'avant.
C'était donc une petite pluie, en fait.
C'était une mais petite encore, pluie, même voilà.
Une bruine cosmique.
Une bruine.
Une bruine cosmique. Alors,
c'est bien la différence entre les prédictions et les prévisions, voilà. N'est-ce pas ? Quand tu as dit que les astronomes avaient prédit, ils ont bien prédit, comme des voyants, mais ils n'ont pas prévu.
Ils n'avaient pas prévu, malheureusement. Alors, une année plus tard, en 99, je dirais, on avait l'année dernière, les astronomes avaient quand même affiné un peu leur modèle.
Et puis les observateurs, je pense qu'ils avaient aussi appris la bêtise de la veille, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va regarder un peu avant et un peu après.
Au cas où, on ne sait jamais. Et en 99, je dirais, ils ont très bien prédit et prévu le maximum des Léonides, où là, je dirais, ça s'est vérifié à 5 minutes près. Hein. Le maximum était prévu à 3h08 le 18 novembre. Je dirais, à 5 minutes près, il y a effectivement eu le maximum d'étoiles filantes.
Il faut savoir, c'est quand même très très dur à prévoir.
Voilà.
Même à la nuit près.
Alors, on a, pour revenir un peu à ce qui s'était passé l'année d'avant avec cette pluie de bolides, les astronomes l'expliquent un peu de différentes façons. Ça peut être un peu lié déjà aux nuages de poussière qui se baladent, qui ont tendance à s'éloigner du dernier orbite de la comète. Donc là, les astronomes disaient c'était la Terre avait rencontré, donc le matin de la pluie des bolides, l'orbite de la comète lorsqu'elle était passée en 1333. Donc quelque chose de vraiment très très vieux. Et ils expliquent aussi ça comme quoi il y aurait des phénomènes, je dirais, gravitationnels liés à Jupiter qui auraient tendance à condenser un peu les poussières. Et
on les a loupées, en quelque sorte.
Non, on les a pas loupées. Justement, quand on a rencontré cette pluie de bolide, on aurait rencontré un nuage de poussière condensé. Et c'est ce qui aurait fait qu'on ait eu justement des bolides, des étoiles filantes très très brillantes, parce qu'il y avait des poussières qui étaient encore très très grosses lorsque la Terre les a rencontrées. Donc voilà pour la petite explication de 98, mais je dirais qu'en 99, les prévisions se sont vérifiées. Alors, maintenant, on approche du fameux 17 novembre 2000.
Juste après la conférence de la SAN.
Voilà, bon, ça, je vais en reparler tout à l'heure. Et donc, on s'approche d'un nouveau maximum de Léonides, donc, qui est prévu là, donc, dans la nuit de vendredi à samedi, dans la nuit du 17 au 18, à 5h moins le quart. Heure locale. Donc, je dirais pour les lève-tôt.
Samedi matin,
5h. Les couches très tard, quoi. Voilà.
Avant ou après la boîte de nuit.
Alors, qu'est-ce qu'on verra cette année ? Bon, là, c'est pareil, ça reste des prévisions, mais je pense que si on fait la comparaison par rapport à l'année dernière, les modèles se sont bien affinés et je pense que l'heure du maximum se vérifiera encore cette année. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'un événement exceptionnel, donc n'hésitez pas à observer la nuit d'avant, quitte à voir la nuit d'après. Des fois qu'on ne sait jamais.
Puis bon, c'est pareil, c'est qu'un moment de maximum. Il faut savoir qu'il y a quand même des choses intéressantes avant et après. Donc ceux qui veulent observer les Léonides, ils peuvent observer à partir de 2h du matin.
L'orbite des poussières, c'est pas une ligne. C'est bien un nuage, donc c'est assez dilué. Et les Léonides, ça doit durer une dizaine de jours, quoi, voilà. À peu près. Quoi. Donc cette année, malheureusement, je dirais, on a quelque chose qui va gêner un peu l'observation, c'est la Lune. La Lune sera en dernier quartier, donc une luminosité un peu gênante, et elle sera située justement pas très loin du radiant.
En fait,
donc,
le problème, c'est que la Lune sera à peu près dans le Lion, à peu près à cette heure-là.
Et
en fait, elle va aider nous éclairer, nous empêcher de voir
les étoiles filantes les moins brillantes.
Les moins brillantes, et deuxièmement, en plus, ils vont être en place sur la trajectoire. C'est pas qu'elle va en prendre, mais je veux dire, c'est qu'en fait, ça va en plus gêner, parce que quand vous observez le ciel, la Lune, ça vous gêne quand vous êtes en
prenant du dernier. C'est une certaine luminosité qui... Mais je dirais, rassurons-nous, ça ne masquera pas les bolides s'il y en a quelques-uns. Donc de ce point de vue-là...
Il faut savoir que pour ceux qui voudraient aller sur la Lune observer les Léonides, il n'y a rien à voir, parce qu'en fait sur la Lune il n'y a pas d'atmosphère.
Bah oui.
Donc parce qu'en fait il va y avoir des particules qui vont venir...
Ils ne se consument pas.
Ils ne vont pas se consumer, donc vous les prenez directement en pleine tête.
Voilà.
C'est pas grave, ça fait quelques microns, mais...
Alors, quelques conseils quand même pour finir sur cette observation. Alors, comment les observer? Bon, moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de bien vous couvrir, parce que les nuits sont fraîches à cette époque. De sortir votre transat, c'est peut-être le meilleur équipement pour observer les étoiles filantes, pouvoir s'allonger et pouvoir, je dirais, embrasser le maximum de ciel.
Je pense qu'il faut qu'on demande aux kinésithérapeutes, ils ont plus de gens qui se plaignent du coup le lendemain des Léonides. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il ne faut pas rester debout observer, parce que vous avez la tête en arrière vous risquez de ne pas profiter du spectacle. Donc l'idéal, c'est vraiment la chaise longue.
S'allonger dans la chaise longue, dans le transat. Et...
Ça fait un peu touriste, mais ça fait du tourisme stellaire.
Voilà, c'est pas tout à fait de saison, mais...
Au moins, vous sortirez...
Vous prenez un transat fourré.
Voilà. En tout cas, vous ne bronzerez pas, à moins d'en prendre une sur la tête, mais ça va être difficile.
Vous sortez votre otarie et votre ours en peluche, votre ours blanc, bien sûr, et puis vous mettez sur une banquise.
Voilà.
Puis là, vous les verrez.
Couvrez-vous bien, pensez au petit café, et puis...
Est-ce que ce serait dommage d'aller chercher le café ou de se revenir juste au moment du maximum, au moment où il y a quelque chose d'intéressant? Donc,
voilà.
L'idéal, c'est de rester toute la nuit.
Voilà. Et surtout, n'oubliez pas vos yeux, qui sont quand même les meilleurs instruments pour observer ce phénomène. Parce que, je dirais, c'est des phénomènes assez rapides. L'étoile filante, ça dure très peu de temps. Et ça peut apparaître dans n'importe quelle partie du ciel. Donc le télescope ou la jumelle ont un intérêt limité, quoi.
En fait, le seul intérêt, c'est de prendre des photos, quoi.
Le seul intérêt, ça serait peut-être de prendre des photos, ou à la rigueur, si on a des bolides, de pouvoir observer des traînées lumineuses laissées par ces bolides.
C'est vrai qu'en fait, pour les Léonides et toutes les étoiles filantes, l'instrument le meilleur, c'est l'œil.
C'est l'œil.
Parce qu'en plus, si vous prenez des jumelles, vous allez vous restreindre de champ de vision.
Voilà.
Et en fait, vous allez louper les. Parce qu'en fait, ce qui est gênant, si vous mettez en cercle, vous êtes 3 ou 4, vous mettez tous dos à dos. Puis le premier, quand il crie. Là, et tout le monde se retourne, et hop, normalement, une étoile filante, personne ne la voit. Alors qu'un bolide, justement, vous avez l'avantage de pouvoir les voir. Donc, si vous êtes en plus avec vos jumelles, je ne vous explique pas le temps que vous mettrez pour la voir.
Voilà. Alors, ça, c'est des conseils d'observation. Une dernière chose quand même, éloignez-vous des centres-villes, de la pollution lumineuse. Choisissez un endroit bien dégagé pour pouvoir les observer. Le meilleur site reste quand même la campagne, voire la haute montagne si vous êtes, dans quelques coins montagneux. Alors, une dernière chose quand même, vous pouvez photographier ces Léonides. Alors là aussi, utilisez des objectifs avec un maximum de chance, genre un 28 mm, ou si vous avez, le nec plus ultra des objectifs grand champ, ce qu'on appelle des fish eyes,
des œils de chat.
Des œils de chat qui sont des objectifs.
Ah bon,
des
œils de poisson.
Fish eyes,
Les chats mangent du poisson, mais de là, les confondre.
C'est pourquoi la nuance, Daniel. L'œil de chat, c'est une fameuse débluette.
Absolument, mais c'est bien.
L'absus révélateur.
C'est ce que j'ai vu luire dans ton œil, bien entendu.
NGC 6543 pour les spécialistes.
Et sans virgule.
Et sans virgule. Donc revenons-en à nos photographies. Donc si vous avez ce genre d'objectifs, ils ont l'avantage de couvrir un champ de presque 180 degrés. Donc là, vous embrassez carrément tout le ciel avec cet objectif.
Rien ne vous empêche d'embrasser quelqu'un aussi.
Faites un vœu alors. Et alors, avec cet objectif, utilisez de préférence des films assez sensibles, genre 800 ISO. De préférence peut-être aussi du négatif par rapport à la diapo, juste par rapport au grain. Mais je dirais la diapo a quand même fait de bons progrès ces dernières années, donc à vous de choisir. Mais privilégiez quand même la couleur, parce qu'une étoile, une belle étoile filante laisse souvent une couleur
rougeâtre,
traînée, verdâtre, ou même bleuâtre, hein, ça dépend. Alors ça serait un peu bête de la gâcher en faisant de la photo en noir et blanc, de se priver le plaisir d'avoir ces couleurs sur ces photos.
Mais est-ce qu'on peut laisser l'objectif finalement en longue pause? Ça serait recommandé si on veut être sûr de ne pas la louper?
Il y a deux façons de prendre des photos. Alors soit vous utilisez un simple pied photo, où là vous mettez votre appareil photo dessus et vous laissez votre objectif pendant quelques minutes. Alors là, par contre, vous n'allez pas avoir d'entraînement, donc vous allez voir les traînées d'étoiles. Et peut-être que, justement, vous verrez, parmi ces traînées d'étoiles, une étoile filante qui...
Et sa traînée ne sera pas, d'ailleurs, parallèle à celle des étoiles. Voilà, elle va trancher.
Elle coupera, voilà. Ouais. Et soit, si vous voulez avoir des étoiles ponctuelles, alors là, vous utilisez une monture motorisée et là, vous faites un suivi et vous aurez des étoiles ponctuelles et les étoiles filantes en plus. Si, évidemment, il y en a quelques-unes. Et donc pour finir par rapport à cela, méfiez-vous quand même de la Lune. Tu demandais si on pouvait poser très très longtemps. L'idéal, c'est de poser le plus longtemps possible.
Mais pas s'il y a la Lune, bien sûr.
Mais s'il y a la Lune, la luminosité de la Lune va à un moment saturer la photo. Donc là, je dirais avec un dernier quartier, ne dépassez pas 5-10 minutes. Quoi. Et encore, ça risque d'être assez élevé, surtout si vous pointez une région où la Lune est proche, une région du ciel où la Lune est proche.
Le problème, c'est que pour Léonide, l'idéal, c'est de pointer le Lion.
Voilà. Et vu que la Lune est en plein dedans. La Lune est en plein dedans, ça va être un peu gênant cette année. Quoi.
Rappelle un peu comme les horaires, je ne sais pas.
Alors, rappelez ces horaires. Donc,
le bolide passera
la nuit du vendredi de vendredi à samedi. Donc, le maximum est prévu donc, samedi matin à 5h moins le quart.
Heure locale.
Heure légale.
Voilà.
Heure légale.
Alors,
en France.
Ce qu'on peut peut-être faire, c'est inviter les gens donc, à aller observer. Nous, je dirais, en tant qu'astronome, on ira observer ça en campagne après la conférence de Michel Marcellin. On s'est, je dirais, donné tous rendez-vous à la conférence et après, on ira finir la nuit sous les Léonides.
Dignement. Alors, et comme vous pouvez d'ailleurs finir vous-même, soit en nous accompagnant, en allant, parce que ce n'est pas une observation très sophistiquée, on peut y aller tout seul.
Je dirais, là, c'est une observation avec les yeux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais bon, moi j'invite tous les gens, s'ils veulent venir avec nous, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils viennent à la conférence et puis après, on ira observer ensemble ces étoiles filantes. Dernière remarque quand même, couvrez-vous bien. Hein. J'insiste là-dessus. Si vous voulez rester vraiment jusqu'à la fin, n'hésitez pas à prendre des vêtements très chauds, genre 2-3 couvertures.
Un thermos.
Et des bonnes chaussures, des bons gants, genre après-ski.
Les après-ski, c'est pas ridicule en observation.
Voilà, hein.
Puis les gants non plus.
On n'est jamais ridicule.
Surtout les gants, là, en plus, il n'y a pas de problème. D'habitude, c'est un peu gênant, les gants, parce que...
On ne se voit pas et on est là pour observer les étoiles.
Absolument. Absolument.
Comme disais, les gants, des fois, c'est gênant pour manipuler les instruments, mais là, vous n'avez rien à manipuler, donc autant y aller avec des bons gants.
C'est de l'observation, je dirais, purement visuelle.
Et on est votre transat.
Et alors, nous, quand on dit sortez couvert, ça a un sens tout à fait scientifique, n'est-ce pas?
Voilà. Les deux, à la rigueur. On va vous rappeler justement, donc c'est pour la. Ça va être le soir suivant la conférence. C'est en fait la conférence de Michel Marcellin, dont on parlera tout à l'heure, qui se déroulera vendredi soir. Et donc, à la rigueur, vous venez à la conférence, et puis après, on en reparlera.
C'est pas le soir suivant.
Non, c'est le soir, c'est la nuit qui suit, en fait.
C'est la nuit qui suit.
Et en fait, on en reparlera au moment de la conférence.
Du 17 au 18.
Voilà. On va vous rappeler
la conférence, et puis on commencera par la conférence.
On parlera de galaxies, on terminera par les étoiles filantes.
Donc, nous allons. Retrouvé dans la chronique astropratique, Gilles Guibert qui fait son premier passage sur les ondes, il va nous parler de la taille des miroirs des télescopes. Alors Gilles, parle-nous de la taille des miroirs de télescopes.
Alors comment faire un miroir? D'abord, pourquoi faire soi-même un miroir plutôt que d'en acheter un? Tout d'abord le prix, le coût, il est généralement beaucoup moins cher d'en faire un que d'en acheter un. Ensuite, la qualité et la précision. On finit son miroir une fois qu'il est fini. Lorsqu'on le juge, qu'il est très bon. Contrairement aux miroirs du marché, ils sont faits en série et ils ne sont pas toujours très très bons. Ensuite, le plaisir de faire soi-même son propre miroir. Ah,
c'est la partie importante.
Voilà. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour faire un miroir? C'est tout simple. Pour faire un miroir, il faut deux disques de verre de même diamètre, d'une épaisseur quand même assez importante pour éviter qu'ils fléchissent. Environ 2 cm pour un diamètre de 20 cm. Ensuite, il faut des abrasifs.
C'est calculé l'épaisseur, il y a des règles.
Il y a des règles. Ouais. Il faut des abrasifs. Il y en a 7 grains différents, du plus gros au plus fin. Et
c'est
aussi de la poix.
C'est un peu pour ceux qui taillent c'est un peu comme le papier de verre. Hein. Vous commencez par gros papier de verre et à la fin vous commencez par du papier de verre quasiment.
C'est du carborundum pour commencer. Puis après ce sont des feldspaths, enfin des hydroxydes d'aluminium, des choses comme ça, n'est-ce pas mon cher?
Ce qu'on appelle en général les abrasifs.
Voilà. Bon, voilà, des abrasifs. Alors le principe.
Mais pas de scotch brit.
Non, ça marche pas.
Le principe. C'est tout simple, on use deux bouts de verre jusqu'à obtenir la forme qu'on veut. Une forme sphérique au début, l'ébauchage, c'est la première étape. On creuse le miroir. Tout simplement, en fait, on a un verre posé sur le support du sur un support de travail, une table. On met des abrasifs dessus et on met un deuxième verre, le deuxième disque de verre qui constitue le miroir. Le premier verre étant l'outil.
D'accord, donc le verre qui va être sur l'outil de travail, c'est en fait l'outil. Et celui qui est dessus, ça va être le miroir qu'il faut bien faire attention.
Tout simplement.
Et si vous me permettez, moi j'ai une façon d'expliquer souvent. Il faut imaginer que si vous vouliez faire un plan parfait, si vous souhaitiez frotter un verre sur l'autre en faisant un plan idéal, eh bien vous n'y arriverez pas parce que dès que votre main dérape un peu, vous feriez du non-plan, c'est-à-dire voilà. Un peu une bosse, un creux, enfin. Et avec les mouvements désordonnés dans tous les sens, statistiquement, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites une calotte sphérique. Et ce qui est au-dessus se creuse, et ce qui est en dessous se bombe.
Voilà.
Hein, c'est ça, mon cher
Gilles. Tout simplement, oui. En fait, on fait frotter le miroir en avançant, en reculant le verre.
Voilà.
En fait,
le miroir. Ça paraît paradoxal, mais en fait, on taille un miroir en faisant les imperfections de notre main et notre geste,
voilà.
Qui devrait normalement dans la logique.
Tout simplement.
Et ça fait une boule. Mais voilà. T'as qu'à voir les imperfections des boules de neige qu'on se ramasse sur le coin de la figure. En bout de 5 milliards d'années, ça fait une planète ronde.
Voilà.
N'est-ce pas ?
Il y en aura encore un peu plus cette année avec les Léonides.
Bah donc, pour revenir à l'ébauchage, c'est la première étape. On essaye de creuser le miroir. Au début, on a deux disques de verre plan et on veut obtenir une sphère. Le miroir, celle qui va être creusée et normalement avec les abrasifs, par le jeu des frottements des abrasifs avec une certaine durée, je dirais la durée après, à peu près combien ça de temps ça prend, on frotte et tout, hop, on obtient une sphère. Mais le problème, on utilise un gros grain pour accélérer l'ébauchage, pour accélérer
l'ébauchage, on fait le trou.
Voilà, on fait le trou.
Et on calcule la profondeur du trou par rapport au futur foyer du télescope.
Voilà. Mais une fois qu'on a obtenu la forme voulue,
la flèche.
On va doucir. On a un très joli dépoli, c'est pas ce qu'on veut. On va passer à la deuxième étape, le doucissage. Là, cette fois, on utilise successivement plusieurs grains. On passe à un grain plus fin, on fait toujours la même étape. On frotte, tout en tournant régulièrement autour de l'outil.
Oui, sinon, on va obtenir... Pour pas user toujours le même côté de
miroir.
Ouais.
Le même côté, quoi. Mmh. On veut obtenir une sphère, quoi.
Voilà.
Alors, sinon, on n'a pas du tout une sphère. Tout en utilisant des abrasifs de plus en plus fins, on arrive à un léger dépoli de plus en plus fin, mais on n'obtient pas encore un polissage, un poli très fin. On prépare le polissage, en fait, tout simplement.
Ça s'appelle le doucissage, c'est la deuxième étape.
Ensuite, on passe à la troisième étape.
Le polissage.
C'est le polissage.
Voilà.
Le polissage, c'est un peu plus compliqué. Sur l'outil, on va découper des carrés de poids qu'on va coller dessus. On va coller des carrés de poids dessus. La poix a une propriété très intéressante. C'est un liquide très, 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 très visqueux, mais qui épouse parfaitement la forme du miroir. Avec le plus fin des abrasifs, on va pouvoir polir le miroir. C'est un travail très, très risqué parce qu'il faut éviter de faire des rayures. Donc, il faut être très soigné.
Alors, on ne travaille plus, comme tu l'as dit, verre sur verre, mais
non.
L'outil, on lui met des carrés de poids. Et pourquoi des carrés ? Parce que si on écrase les carrés, bah, il reste encore un peu de place. Mais si c'était une surface, si c'était entièrement enduit de poids, eh bien, avec l'usure ou le poids du miroir, ça se déformerait, mais d'une manière qu'on ne souhaiterait pas, qui ne serait pas parfaitement sphérique, tu vois ? Hein, et puis, la poix, c'est tout simplement une substance qu'utilisent les cordonniers pour durcir, autrefois, pour durcir les lacets. C'est un liquide d'ailleurs en surfusion, c'est pas vraiment un solide, à ce que j'ai appris. Mais c'est dur quand même.
C'est dur quand même, mais...
Ouais.
Et enfin, la parabolisation. C'est là que vraiment le travail commence.
Oui, enfin, le travail commence, on a déjà fait 40 heures jusqu'au polissage.
Un peu moins,
La parabolisation, ça peut prendre que quelques heures, si on s'y prend bien.
Ça peut prendre quelques heures ou beaucoup plus même. En fait, c'est assez variable.
Tout
à fait. La parabolisation... De la sphère, on veut obtenir une parabole. C'est ce qu'on doit obtenir pour faire un miroir. Problème, c'est qu'on travaille localement maintenant. On va observer le miroir. On contrôle le miroir grâce à un principe tout simple qu'on appelle le Foucault test.
Le test de Foucault.
Le test de
Léon Foucault.
De Léon Foucault, oui. 19e siècle, il me semble.
Oui, oui, c'est 19e siècle.
Et on voit les défauts du miroir au micron près. Par l'observation au principe du test de Foucault. Et là, on va travailler localement sur les défauts. Donc, ici, c'est plus des frottements sans réflexion, c'est travailler localement.
Oui, en fait, on rattrape petit à petit, endroit par endroit.
Oui, enfin, disons, c'est plutôt circulairement, en principe, en général, sauf accident. Le miroir, il est parfaitement, au départ, il est parfaitement sphérique. Et ce qu'on veut, c'est l'aplanir un peu pour qu'il se transforme en parabole. Voilà. Mais la différence, elle est tellement minime que quelquefois, il faut quelques courses, comme on dit, quelques frottements dans un sens et dans l'autre pour aboutir à cette forme. Dans le meilleur des cas, on a un quart d'heure de parabolisation. C'est déjà arrivé.
Mais des fois, on fait des bosses ou des creux.
Oui, on en rajoute.
Le problème, c'est ça. C'est en fait,
il faut rattraper.
Il faut s'arrêter au moment.
Il disait que c'était que le début parce que lui, il y a passé 3 semaines.
Voilà.
Voilà, c'est exactement ça.
Mais ça, c'est les moins doués qui passent 3 semaines.
Oh, oh oui.
Vas-y, continue, Gilles.
Donc, alors, les conseils et les qualités qu'il faut avoir pour faire un miroir. Il faut être très, très soigneux. Un pauvre petit grain plus gros que l'abrasif qu'on utilise fait une sale petite rayure sur le miroir, ce qui nous oblige à reprendre l'abrasif au-dessus, donc passer encore je ne sais combien d'heures à rattraper la chose, puis revenir à l'état où on était.
Vaut mieux avoir 2 cm que si vous arrivez à 5 mm, c'est que vous avez fait beaucoup d'erreurs quand même.
Oui, beaucoup.
Ça fait des trous, enfin, moi j'ai vu ça au microscope, ça fait vraiment des trous, c'est laid. Mais en même temps, ce sont des signatures, quand il y en a un ou deux, ben, on les garde. C'est...
Ouais. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il reste une toute dernière étape. Le verre, c'est un support. Il reste l'aluminium, c'est tout.
Une fois
qu'on a la forme voulue,
voilà.
Il reste une couche d'aluminium.
Il faut transformer le verre en miroir.
Voilà, tout simplement.
Voilà.
Donc, on l'enduit d'une
surface réfléchissante.
D'une surface réfléchissante, tout simplement.
Voilà.
C'est le même Léon Foucault, d'ailleurs, qui a trouvé le procédé, qui a eu l'idée d'utiliser des miroirs en verre pour mettre de l'argent dessus.
Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le télescope. J'ai dit comment faire un miroir, mais il reste quand même tout le gros télescope à faire. Mais il faut savoir que faire un miroir, c'est tout d'abord un plaisir, quoi. Et surtout, observer dans son propre miroir.
Voilà,
c'est un très grand plaisir. Voilà, et c'est à portée de tout le monde.
Donc le mieux pour le faire, c'est de venir nous voir à la SAN.
Voilà. Si vous voulez d'autres renseignements, passez à la SAN.
Parce qu'en fait, il y a des gens qui passent leur temps à polir leur miroir.
Non, en fait, beaucoup d'entre nous ont poli leur miroir, même moi.
Voilà, alors, c'est pour te dire.
Si moi j'y arrive, Gilles y arrive aussi.
Merci Gilles. Maintenant, Daniel Warling va nous parler des débuts de l'astrophysique. Donc avant, on va poser la question peut-être.
On va la poser rapidement. Donc c'est une question bien sûr sur les galaxies, en référence à la conférence de vendredi soir. Quelles sont, hormis la Voie lactée bien sûr, quelles sont les galaxies qui sont visibles depuis la Terre à l'œil nu? Donc vous appelez le 02 40 93 26 62.
Il reste encore une ou deux places, je crois. Dépêchez-vous. Donc il y a 2 semaines, Daniel Warling nous avait parlé de spectroscopie, un outil qui avait permis d'obtenir à la fin de son exposé le diagramme Hertzsprung-Russell. Hein, tu sais ça comment je prononce bien? Donc là maintenant, il vous parlait quoi? Hertzsprung-Russell. Oui, oui. C'est bien.
Hertzsprung.
Alors Daniel, rappelez-nous la spectroscopie, c'est le principe, et puis ce qu'elle a apporté, puis après depuis la spectroscopie.
Voilà. Alors vous vous souvenez, comme tu l'as dit Thierry, la semaine dernière...
Il y a 2 semaines, c'est exactement.
Il y a 2 semaines, pardon, la dernière émission, bien entendu. Je vous ai raconté l'histoire du développement de ce qui était une simple technique et qui va se révéler un outil fabuleux pour l'astronomie, et notamment l'astronomie physique, ce qu'on appellera plus tard l'astrophysique. Et bien entendu, au cœur de cette évolution, il y a donc cette technique qui s'appelle la spectroscopie. Alors je ne vais pas bien sûr reprendre, puisqu'on vous a dit, on vous a raconté comment à partir de la décomposition de la lumière, et ensuite on a observé dans ce spectre, dans cet arc-en-ciel, on a observé des raies sombres, et puis on a utilisé ces raies pour étudier finalement la composition des étoiles. Alors, toute cette épopée, elle a été essentiellement l'œuvre d'observatoires de Harvard, et puis avant cela, beaucoup d'autres, et notamment des Français, des Italiens. Qu'est-ce qu'on a fait à l'issue de ce processus? On a fini par classer les étoiles. On a classé des dizaines de milliers d'étoiles, et on les a classées selon l'allure de leur spectre, c'est-à-dire, on pourrait dire, selon finalement la composition chimique à la fois de leur intérieur qui va donner la nature de la lumière, la couleur de cette lumière qui va donner le fond de l'arc-en-ciel, et la composition de l'atmosphère qui est révélée par l'espèce de code-barre que constitue le spectre. Alors, on a commencé à classer ces étoiles, et j'avais terminé, il y a 15 jours, par vous dire, bah, tout cela a donné naissance à un graphe, un diagramme, à quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle le diagramme ou de Hertzsprung-Russell. Alors, qu'est-ce que c'est que... Alors, bien sûr, maintenant, je vais vous rappeler ce qu'est ce diagramme et surtout qu'est-ce que ça a permis par la suite. Alors, il faut rappeler que, d'une part, il y a deux relations qui ont été établies, l'une par Wien et l'autre par Stefan. Hein. Ce qu'on appelle la loi de Wien, c'est une relation entre la température des étoiles et la couleur. C'est-à-dire que plus les étoiles sont chaudes, plus elles sont bleues.
Ça va pas prendre un peu l'exemple de la bougie.
Voilà.
Si vous prenez une bougie à côté de la mèche, c'est tout bleu.
Oui,
c'est beaucoup plus chaud que l'extérieur qui est orangé.
Voilà.
Autrement, le système du fer, un peu quand on.
Voilà, quand on chauffe un fer, il devient d'abord rouge.
Voilà.
Ensuite, si on chauffe beaucoup, on le chauffe à blanc, comme on dit.
Voilà.
Et si on imagine qu'on va encore plus loin, on arriverait au bleu, puis au violet, puis à l'ultraviolet d'ailleurs, et les rayons X par la suite. Donc plus l'énergie.
En fait, ce qu'il a fait, en fait, c'est simplement, en gros, hein, c'est pour schématiser,
ouais.
Il a bien fait l'association à telle couleur, c'est en. Telle plage de température.
Tout à fait. Donc ça, c'est la loi de Wien.
Ce qui est très important.
Ah, c'est fondamental, vous allez voir. Et donc, et ensuite, il y a une deuxième loi qui va compléter cette loi de Wien entre la température et la couleur. C'est une relation entre la température et l'énergie qui est produite par l'étoile. Et l'énergie qui est produite par l'étoile, c'est ce qui va déterminer ce qu'on appelle sa brillance, sa vraie brillance, sa brillance absolue, ce qu'on appelle la magnitude absolue. Parce que finalement, une étoile, elle peut être très brillante, mais si elle est petite et proche, elle va être aussi brillante qu'une étoile qui va être, par exemple, extrêmement puissante, mais très, très lointaine. Donc, ce qui compte, en fait, c'est... Il faut tenir compte de la distance pour parler de, bien sûr, ce qu'on appelle la magnitude absolue.
Est-ce que vous voyez sur Terre, c'est la magnitude relative ?
Voilà.
La magnitude absolue, c'est une échelle de luminosité en considérant que les étoiles sont à la même distance.
Tout simplement.
Et
voilà.
Je pense que je ne sais plus exactement quelle est la distance de référence.
On corrige les non, c'est pas un parsec, je crois que c'est quelque chose. Je l'ai oublié.
C'est
quelques parsecs, hein. c'est pas un parsec. Ouais, un parsec, c'est 3,26 années-lumière, donc c'est quand même pas mal. Vous multipliez par 10 000 milliards de kilomètres. Enfin, l'idée, c'est en fait de comparer les étoiles comme si elles étaient situées à la même distance en corrigeant leur brillance apparente. Alors, Hertz, en 1902, donc nous sommes bien avant la fin de l'établissement de la classification des étoiles qui date d'à peu près 1910-1915 avec l'observatoire de Harvard. Donc en 1902, on vient un peu en arrière, il y a un jeune Danois, il n'a pas 30 ans, il s'appelle Ejnar, là je prononce mal, Hertzsprung,
voilà.
Hein, Hertz comme les voitures, comme voilà. Le cœur en allemand, et Sprung comme le saut en allemand. Donc le saut du cœur, monsieur Hertzsprung. En 1902, il avait l'idée. Alors, il n'est pas le seul à avoir eu l'idée de faire une relation entre la couleur des étoiles et leur brillance, leur magnitude absolue, et de mettre cela sur un même graphique. Et en fait, cette idée avait été émise bien avant. Alors là, je ne sais plus par qui, vous m'excuserez, ça n'a aucune importance.
Il cherche dans ses notes, hein.
Ouais,
c'est pour ça que.
Oui, mais c'est normal.
J'ai l'impression qu'il se barre du micro.
Oui, non. Je me barre du micro, non. Et alors, il va vérifier cette relation sur un amas, parce qu'il va commencer par un amas, celui des iades. Parce que si, il vaut mieux prendre des étoiles qui sont situées à la même distance.
Donc pour faire un test, c'est l'avantage, on
va
dire qu'un amas, ces étoiles sont situées à la même distance, donc si on voulait faire des tests, c'est plus simple.
Voilà, alors qu'est-ce qu'il va montrer, c'est que finalement, la plupart des étoiles, environ 90% des étoiles, vont être sur une espèce de droite, une espèce de diagonale, hein, et qu'il appellera la séquence principale.
C'est-à-dire en fait qu'il a reporté, il a mis en abscisse la luminosité et en ordonné leur magnitude ou leur couleur, c'est ça ?
Il a mis en abscisse la couleur.
La couleur, donc j'inverse la.
Et en ordonné la magnitude
donc, en fait,
absolue.
Quand il reporte toutes les étoiles,
voilà.
Il disait bien il y a 90% qui se reportent à peu près sur une même droite.
Voilà, enfin,
c'est une droite assez épaisse, on va dire.
Tout à fait. Alors aussi, ce qu'il va montrer, Hertzsprung, c'est que finalement, il y a un paquet d'étoiles qui vont pas se mettre sur cette séquence principale et qui vont constituer une tâche tout à fait à part. Mmh. Et cette classe d'étoiles correspond à une classe que qu'avait mis en évidence une dame de l'Observatoire de Harvard et qui il va donc prévenir Pickering, qui était le directeur de cet observatoire, en lui demandant de bien vouloir valider l'observation de Annie. Je crois que c'est Annie, non, c'était... Bref, c'était une dame qui avait travaillé avant Annie Cannon et qui avait établi cette classe particulière d'étoiles rouges, des géantes rouges. Mais Pickering ne l'écoutera pas. C'est Antonia Mori, pardon, qui avait fait cette découverte auparavant. J'étais même... Alors bref, arrive dans les années 1913 un nommé Russell, qui était américain, et qui va avoir la même idée que Hertzsprung. Simplement, il ne savait pas que Hertzsprung avait publié, mais parce dans un obscur.
À l'époque, il n'y avait pas non plus de si, relation facile entre les.
Oui, enfin, il y avait le courrier qui marchait mieux qu'aujourd'hui.
Oui, presque. Ouais. Il n'a pas évolué, le courrier.
Non, pas vraiment. Mais par contre, il y avait des revues et Hertzsprung avait publié dans une obscure revue qui s'adressait à des photographes d'astronomie plus qu'à des astrophysiciens. Donc, Russell va établir cette même. Découverte, et il va avoir vent de ce qu'a fait Russell, pardon, de ce qu'a fait Hertzsprung, et il va associer Hertzsprung à sa découverte, et il va l'appeler le diagramme non pas de Russell-Hertzsprung, mais de Hertzsprung-Russell, en lui donnant l'antériorité de la découverte, ce qui est très fair-play, et qui est assez. Rare en science, oui. Donc voici donc ce qu'on a, on est donc dans les années 13 et on va utiliser ce diagramme, on va essayer de comprendre la vie des étoiles. Alors au début on croyait que les étoiles, elles étaient d'abord, alors ce diagramme c'est très simple, vous avez des étoiles qui sont petites et rouges, qui sont froides, et des étoiles qui sont grosses et bleues et qui sont chaudes. Hein. Alors, on a cru d'abord que les étoiles, elles naissaient d'abord grosses et bleues et chaudes, et qu'elles finissaient leur vie sous forme de petites étoiles rouges.
Qu'elles suivaient la séquence principale, en fait.
Voilà. Mais ça, c'est effectivement qu'elles suivaient la séquence principale. Mais ça, c'est pas du tout. Et on pensait que l'énergie des étoiles provenait de la gravitation. C'est-à-dire qu'elles s'effondraient, et que ça, là, c'est ça qui donnait lieu à leur énergie, à leur chaleur. Et pour si on admet ce modèle, à ce moment-là, on va Eddington va critiquer d'ailleurs ce modèle qui avait été d'ailleurs préconisé par Russell, celui du diagramme. Hein. Mais Eddington, qui était en 1923, il va dire que si c'était cela qui créait l'énergie de l'étoile, il faudrait que le cœur de l'étoile soit à 25 millions d'atmosphères, et par conséquent, l'étoile exploserait. Et en même temps, on sait que cette pression, on peut extrapoler les lois des gaz parfaits au cœur des étoiles. Hein, ça, c'est Ernest Rutherford, qui était un atomiste, lui aussi, qui était néo-zélandais, hein, qui va, par son modèle d'étoiles, il va montrer que les lois des gaz parfaits s'appliquent dans le cœur des étoiles. Donc, ce n'est pas possible que l'étoile soit trouve son énergie dans la gravitation. À cause de cette fameuse pression de radiation.
Il faut rappeler qu'à l'époque, on ne savait pas comment.
On ne savait pas comment elle fonctionnait. Voilà. Pas du tout. On pensait que c'était la chaleur. Et c'est vraiment. Donc, c'est tout à fait. Rutherford qui va amener Eddington à préconiser le modèle, cette fois-ci, de fusion thermonucléaire, c'est-à-dire le fait que l'énergie de l'étoile provient de la perte de masse qu'elle subit du fait de l'équation d'Einstein, qui est la variation d'énergie, est égale à la perte de masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. C'est le fameux E égale MC2, si vous voulez. Et seule cette énergie-là permet de rendre compte de la générosité du rayonnement de l'étoile. Donc à partir de là, il y a une Anglaise après, Cecilia Payne, qui va montrer que la plupart des étoiles sont faites de 80% d'hydrogène, et donc en fait, l'essentiel de cette combustion, c'est de la fusion de l'hydrogène en hélium, et c'est ça qui va donc expliquer le rayonnement des étoiles. Donc vous voyez que comment... Alors bon, par la suite, vous avez Hans Bethe, qui était prix Nobel en 1967, qui va établir le cycle du carbone, comment les protons vont se fusionner, complété par le cycle proton-proton, qui a été démontré par Ivry Schatzman. Et puis, donc, peu à peu, on arrive finalement à partir de ce fameux diagramme qui est issu, donc, je le rappelle, de la spectroscopie. On arrive à s'intéresser à la vie des étoiles. Et c'est là que vont se poser plusieurs questions. Parce que finalement, si on suit maintenant ce modèle thermonucléaire, on va aboutir à des étoiles relativement stables. Alors, on comprend pas trop comment elles naissent et comment elles meurent. Alors, on va essayer de voir la suite de l'évolution. Alors, d'après les modèles, normalement, les étoiles relativement petites devraient finir sous forme de naines blanches. Alors, les naines blanches, vous savez, c'est des étoiles très petites qui finissent par briller juste un restant de chaleur, mais qui cessent de s'effondrer. Alors, on comprend pas trop parce que quand une étoile perd son énergie de rayonnement, elle devrait continuer à s'effondrer. Or, c'est là qu'intervient à nouveau la physique atomique, et c'est Wolfgang Pauli qui a établi son principe d'exclusion qui va dire que au-delà d'une certaine compression, eh bien on ne peut plus comprimer les électrons ou les protons entre eux parce que ils peuvent pas occuper il y a pas de place pour eux parce que chaque proton a quatre nombres quantiques différents. Ça c'est de la physique quantique et c'est ça qui va expliquer les naines blanches. Et surtout que par la suite, le modèle va être complété aussi par un Pakistanais qui s'appelle, alors là je vais me lancer, Subramanian Chandrasekhar. Alors tout le monde connaît Chandrasekhar quand même, enfin tous ceux qui s'intéressent à l'astrophysique. Et il va établir que quand les électrons sont très comprimés, ils atteignent des vitesses relativistes. Et à ce moment-là, il faut moins de pression pour qu'ils, ils n'ont pas besoin de autant de pression. Ils peuvent rester plutôt froids. Alors, Chandrasekhar est mort, je crois, il y a 2 ou 3 ans. Hein. Alors après, les naines blanches, à l'autre extrémité de la mort des étoiles, vous avez l'explosion en supernova. C'est-à-dire que les étoiles très grosses, elles vont exploser. Elles vont exploser tout simplement parce qu'il arrive un moment où plus elles sont grosses, plus elles fabriquent des atomes lourds, elles vont fabriquer du fer. Et quand elles fabriquent du fer, le fer a cette propriété de réabsorber les photons. Donc à un moment donné, l'étoile, elle va produire des photons, du rayonnement en quelque sorte, mais ce rayonnement, au lieu de servir à maintenir son diamètre, ce rayonnement va être réabsorbé par l'étoile elle-même, et là vous aurez carrément un effondrement catastrophique. Alors les supernovas ont été beaucoup étudiées par Zwicky, qui en recensa plus d'une centaine. On en a découvert actuellement à peu près 600, hein, depuis que en 1604, Kepler en avait observé une, et puis depuis que les Chinois, en 1054, et bien avant, en 1006, d'autres astronomes avaient observé une supernova. Voilà. Alors, pour la petite histoire, les supernovas ont été également observés par des amateurs, et Jean-Claude Merlin...
On en observe encore,
on peut en observer dans notre galaxie. Alors je vais terminer ma petite histoire, parce que finalement toute cette épopée, enfin toute cette histoire des étoiles issues de la spectroscopie, on va revenir à la spectroscopie parce qu'elle va apporter une nouvelle chose que tout le monde connaît. Elle va montrer que quand on observe les galaxies, et surtout les galaxies de plus en plus lointaines, eh bien le spectre de ces galaxies, parce qu'on peut faire le spectre de plein de choses, et notamment des galaxies, eh bien il va se décaler vers le rouge, c'est-à-dire vers les grandes longueurs d'onde. Et qu'est-ce qui se décale vers les grandes longueurs d'onde? C'est comme quand vous avez un son, une ambulance qui passe, vous avez le son qu'elle émet qui va devenir plus bas. C'est-à-dire que quand elle s'éloigne, eh bien, on a l'impression que les ondes, elles vont se rallonger. Et c'est un peu ce qui se passe avec les galaxies, et c'est ce que va établir Hubble et son fameux assistant qui s'appelle Humason, qui était conducteur de mules, qui conduisait les mules pour aller porter les pierres pour faire l'observatoire de Wilson. Et Humason était passionné d'astronomie, et Hubble en a fait son assistant. Et il a, de 1924 à 1929, ils ont recensé des centaines de galaxies pour établir la fameuse relation, appelée la relation de Hubble, du décalage vers le rouge. Plus les galaxies sont loin, plus elles vont vite, hein, plus elles s'éloignent vite. Et ceci conduit tout naturellement au fameux modèle expansionniste de l'univers qui va être prôné par Eddington, le même, surtout après que un de ses élèves qui s'appelait l'abbé Georges Lemaître, qui était mathématicien belge, lui, il va tourner le film à l'envers et il va dire, puisque tout s'éloigne, c'est que tout était réuni en un atome primitif il y a très longtemps. C'est la fameuse hypothèse de l'atome primitif qui va être popularisé sous le nom de dérision que lui donnera Fred Hoyle par la suite à la BBC, sous le nom de Big Bang. Alors évidemment, toute cette histoire, que je résume un peu brutalement, est issue de l'astrophysique, avec un détour par la structure interne des étoiles, où il y aurait encore 1000 détails à raconter, et retour vers cette fameuse fuite des galaxies, où on a, bien sûr, on vous a pas raconté les trous noirs, on vous a pas raconté les pulsars, mais tout cela, c'est la matière à d'autres émissions, parce que là, c'était l'idée de suivre un peu le fil de cette fameuse technique de spectroscopie, comme quoi, quelquefois, on découvre un truc. Vous vous souvenez, un jour, il y a quelqu'un qui a dit à Pasteur, écoutez, pourquoi vous faites de la recherche fondamentale, ça sert à rien. Pasteur a dit, écoutez, un jour, il y a un Suédois qui est venu en montrant que les aimants, ils étaient attirés ou déviés par un fil électrique parcouru par un courant. Il y avait là des types très sérieux qui ont dit, à quoi ça sert cette connerie-là ? Et bien, c'est pourtant l'origine des moteurs électriques. Alors, celui qui dit que les moteurs électriques ne servent à rien aujourd'hui, c'est lui qui est un âne aujourd'hui. Donc, voilà. C'est pour ça, voilà, donc, la spectroscopie et le développement prodigieux de l'astrophysique.
Merci beaucoup, Daniel. C'est vrai que c'est un exposé très vaste, on a quoi en dire. Je vous rappelle la question, on va l'aider un peu les gens, parce qu'apparemment les gens téléphonent et trouvent pas automatiquement la bonne réponse. Je vous rappelle que il faut trouver, hormis la galaxie, les seules galaxies visibles à l'œil nu depuis la Terre. Je vous rappelle que depuis la Terre, c'est-à-dire depuis l'hémisphère nord et depuis l'hémisphère sud.
Oui, la Terre, elle est ronde.
Elle est ronde. Donc voilà, pour les gens qui répondent pas comme il faut, hein, je vous rappelle, chercher des galaxies visibles à l'œil nu, il n'y en a pas 36. Hein. Hémisphère nord et hémisphère sud, tout pour ça, vous nous appelez. Vos 02 40 93 26 62, vous nous donnez les galaxies, visite de l'hémisphère nord et hémisphère sud, à l'œil nu, et vous gagnez une place pour la conférence dont on va parler tout à l'heure. Après la pause musicale, nous parlerons de Giordano Bruno et de la Voie lactée, celle-là n'étant pas comptée comme une galaxie visée à l'œil nu, parce qu'on est dedans, mais on la voit quand même. Mais bon, elle fait pas partie de la réponse, pour résumer.
Alors Giordano Bruno est un...
Attends Christian, j'ai pas fait de geste. Ah, bon alors Christian, qui c'est Giordano Bruno ? Tu peux parler maintenant.
Alors Giordano Bruno est un Italien qui a vécu au XVIe siècle. Il est né en 1548. Il a été élevé par les Dominicains. Et pendant une vingtaine d'années, il s'est déplacé en Europe dans plusieurs villes. Genève, Toulouse, Londres, Paris. Il a écrit plusieurs traités, enfin des dialogues plus exactement. En 1592, il a été arrêté par l'Inquisition, qui lui reprochait en particulier de ne pas croire au miracle du Christ, à la virginité de la Vierge, à la Trinité, etc. Et il a été brûlé vif en 1600 à Rome. Bruno a lu Copernic, et donc il a adopté le système de Copernic, donc les planètes tournent autour du Soleil.
Dont on a parlé il y a 2 semaines, je crois.
Dont on a parlé il y a 2 semaines, c'est ça. Pour lui, le système de Copernic est réel physiquement. Ce n'est pas une hypothèse de calcul. Et donc, il en parle dans ses dialogues en faisant donc tourner la Terre autour du Soleil. Mais la grande idée de Giordano Bruno, c'est l'infinité du monde. Alors, jusqu'à l'époque, on croyait que les étoiles étaient réparties sur une sphère. Elles étaient toutes à la même distance du Soleil ou de la Terre, si c'est Aristote, par exemple. Et lui, il va penser que les étoiles sont dispersées dans l'espace infini, qu'il y a autant de systèmes solaires répandus dans l'univers, que l'univers est infini, qu'il y a une pluralité de mondes habités. Toutes ces hypothèses-là, effectivement, vont déranger l'Église. Puisque si on dit qu'il y a plusieurs mondes habités, s'il y a d'autres créatures intelligentes, ça veut dire que la création n'a pas été faite uniquement pour l'homme, et c'est ce que l'on croyait à l'époque.
Et surtout, si le monde est infini, il va inclure Dieu. Or, Dieu, par définition, il est en dehors. Enfin, il y avait ça. Il y a le fait aussi que si la Terre n'est plus unique, lui, il est allé très loin, puisqu'il a été, comme tu l'as dit, pour la pluralité des mondes habités. C'est-à-dire qu'il y avait d'autres vies ailleurs. Et alors, à ce moment-là, ça posait un problème, non seulement parce que Dieu avait fait l'homme à son image, et quelle était l'image de ces êtres ailleurs, mais en plus, il n'y avait plus d'unicité de la Terre. C'est surtout sur ce point-là, d'ailleurs, qu'il a été âprement combattu par l'Inquisition.
Effectivement, l'infinité, c'est un attribut de Dieu. Dire que l'univers est infini, on attribue à l'univers matériel une qualité qui est
quasiment divine, en fait.
Ouais. Voilà, qui est divine. Et d'ailleurs, Bruno...
L'éternité, l'infini. Voilà.
Et Bruno, d'ailleurs, confond un petit peu Dieu et la nature. Hein. C'est Spinoza qui dira Dieu ou la nature. Bruno, pour lui, la nature, elle se crée elle-même, elle s'organise elle-même, comme s'il n'y avait pas de Dieu créateur. Alors, effectivement, ça dérange. Et comme tu le disais, dire que nous ne sommes pas au centre du monde, Bruno disait, s'il y avait des habitants sur la Lune, ils se croiraient au centre du monde. S'il y avait des habitants sur une autre étoile, ils s'imagineraient aussi qu'ils sont au centre du monde.
En passant, c'est une idée relativiste.
Voilà, c'est ça, c'est un effet de perspective. Hein. On voit tout tourner autour de nous, mais c'est une illusion, c'est une apparence. Pourquoi on ne voit pas des changements dans les étoiles ou dans les planètes ? Parce que jusqu'alors, Aristote avait dit, les astres sont inaltérables, ils ont un caractère divin. Et Bruno, il dit, regardez la Lune, si elle était beaucoup plus loin qu'elle ne l'est, on ne verrait quoi ? On verrait juste un point brillant, on ne verrait aucun changement. Il n'a pas dit qu'on ne verrait pas les phases de Vénus, mais s'il avait connu les phases de Vénus, il aurait dit, à l'œil nu, on ne les voit pas, il faut un instrument. Bon, effectivement, Bruno... a dit cela avant l'invention de la lunette, mais les changements, on ne voit pas de changements dans les astres, tout simplement parce qu'ils sont trop loin. Si on les a crus inaltérables, c'est parce qu'ils sont trop loin pour qu'on puisse voir le moindre changement.
En gros, ils dérangent beaucoup, quoi.
Voilà, effectivement, ils dérangent beaucoup. Alors, il ne faut pas croire que Bruno est si moderne que cela. Il est moderne dans le fait qu'il parle de l'univers infini, qu'il parle de la pluralité des mondes infinis. C'est une idée qui sera reprise par Fontenelle dans les années 1680. Par contre, il est assez archaïque en un certain sens, puisque pour lui, les planètes sont des animaux, c'est-à-dire que ce sont des êtres vivants qui se déplacent par eux-mêmes. Alors effectivement, on croyait avant que les planètes étaient emportées autour du Soleil par des sphères solides. Mmh. Comme ils ne croient pas en ces sphères solides, il faut bien imaginer un moteur pour les planètes. Elles ne vont pas se déplacer par elles-mêmes. Enfin si, c'est ce qu'il dit. Hein. Les astres, donc, sont des animaux qui ont des sens, mais ces sens ne sont pas les sens que nous possédons, nous. Hein,
Donc il invente en fait une nouvelle façon de déplacement de planète.
Voilà, exactement. Et pour lui, il y a une âme du monde, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le monde s'organise lui-même, il n'y a pas besoin de créateur. Alors effectivement, c'est ce qui a posé des problèmes à l'Église. Alors c'est un animisme, hein, en philosophie on pourrait dire ça. C'est-à-dire qu'il y a le mécanisme... qui dit les planètes, par exemple, pourraient être des projectiles, se comporter comme des projectiles. C'est ce que fera Galilée. Et il y a l'animisme qui attribue aux planètes un moteur interne, quelque chose...
qui leur est propre à eux, quoi.
Qui leur est propre à eux. Alors, Bruno s'est aussi intéressé au mouvement des planètes autour du Soleil. Alors, il a cru au mouvement circulaire, comme l'avait pensé Copernic. Il ne remet pas cette notion en cause. D'ailleurs, il est fâché avec les mathématiques. Pour lui, les mathématiques ne représentent pas le monde. Ainsi, pour lui, les planètes sont toutes à la même distance du Soleil, alors que dans le traité de Copernic, elles ont bien des distances différentes. Mmh. Il n'a visiblement pas compris cet aspect des choses-là. Pour lui, le mouvement circulaire, c'est un mouvement naturel, c'est-à-dire que une planète va tourner sur elle-même ou autour du Soleil de façon naturelle, de façon spontanée. C'est pas un mouvement qui est produit par quelque chose. C'est produit par son âme propre, mais c'est pas un mouvement qui résulte de la composition de plusieurs mouvements. Si j'ai un peu de temps...
Rapidement, vas-y.
Oui, il arrive aussi à expliquer comment les objets, comment la Terre tourne sur elle-même sans qu'on s'en aperçoive. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la Terre, une pierre que l'on projette vers le haut, elle va conserver le mouvement de rotation.
Ah, il y a quand même une conservation de mouvement.
Voilà, il y a quand même une conservation du mouvement, mais qui n'appartient que dans la mesure où la pierre est une partie de la Terre qui est séparée de sa totalité.
Qui a la même âme, etc.
Voilà, et la pierre va rechercher à rejoindre la totalité dont elle fait partie, et elle sera au repos quand elle touchera le sol.
Donc il a une bonne idée, mais alors autour, c'est pas génial, quoi.
Voilà.
C'est un peu un mélange, comme effectivement on le dit moderniste, parce qu'on veut toujours voir dans dans quelqu'un le précurseur de ce qu'on connaît maintenant. Voilà. C'est souvent une erreur d'historicien qui est assez fréquente.
Mais il est moderne dans certains points, puis dans d'autres, il est complètement...
Par contre, il a fait mentalement l'expérience du bateau, c'est-à-dire lâcher une pierre du haut d'un mât, la pierre, elle tombe au pied du mât du bateau, alors que l'on croyait avant qu'elle tombera en arrière du bateau. Il a fait mentalement cette expérience que Galilée va décrire, mais de façon plus précise. Et Galilée, effectivement, va utiliser le principe d'inertie, et c'est là le départ de la physique moderne. Principe que ne possède pas Giordano Bruno, mais il n'est pas physicien, il n'est pas mathématicien, il est surtout philosophe.
Donc il meurt en 1600, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, il est mort en 1600.
Parce qu'il n'a pas voulu reconnaître, ou on lui a pas laissé le choix de ses...
Il a eu un procès qui a duré une huitaine d'années, donc on lui a offert plusieurs fois la possibilité de se rétracter. Il ne l'a pas fait, et puis il faut dire qu'il avait déjà eu des ennuis avec l'Inquisition, à peine docteur en philosophie, il avait déjà eu des problèmes avec l'Église, et effectivement l'Église ne lui a pas pardonné, surtout d'être un renégat, parce qu'il était prêtre, il était dominicain, donc il était de l'Église elle-même. Ouais. Donc ça,
c'est pas une trahison, quoi.
Voilà, c'est une trahison.
Et par contre, est-ce qu'il a été réhabilité par l'Église, lui ?
Non.
Toujours
non,
pas.
Non.
Parce que Galilée y était il y a quelques années.
Voilà. Non, parce que en plus, si je me trompe pas, le cardinal Bellarmin qui a participé au procès de Galilée, c'était l'inquisiteur de Giordano Bruno. Non, ouais. Là, cette erreur-là, l'Église ne l'a jamais.
L'a toujours pas reconnu, quoi.
Non.
Comme quoi. Hein. Merci Christian. La Société de l'Estomac de Nantes organise une conférence grand public vendredi soir. Daniel Warling va nous parler de cette conférence plus précisément. Et puis on va aider un peu les gens pour répondre à la question, pour gagner des places pour la conf peut-être.
Oui, on donnera je pense la réponse à la fin de cette
émission. Tout à fait, on vous rappelle que quand même il faut trouver trois galaxies visibles. On vous
aide
À l'œil nu, des deux hémisphères.
Bien sûr.
Sauf la Voie Lactée, en appelant au 02 40 93 26 62.
Voilà. Alors, je vais vous parler un peu de cette conférence. C'est la première de la saison, hein, qui s'ouvre pour une dizaine de conférences jusqu'au mois d'avril. Là, nous serons en compagnie de Michel Marcellin, qui est, je vous en parlerai un petit peu mieux tout à l'heure, qui est un éminent astronome. Et c'est un jeune astronome, hein, il n'a pas 50 ans. On est jeune en recherche à cet âge-là. Et en fait, il a beaucoup travaillé. Donc lui, c'est un grand spécialiste des galaxies, et notamment de la nôtre, de la Voie lactée, de notre galaxie. Alors, je vais d'abord... Alors, évidemment, il travaille à l'Observatoire de Marseille. Et l'Observatoire de Marseille, quand on en parle des fois comme ça, les gens se disent « Ah, Marseille, c'est le sud, le pastis, etc. » Mais il faut savoir que l'Observatoire de Marseille était un éminent, et toujours d'ailleurs, un haut lieu de science, puisque on y a établi les débuts de l'interférométrie. Et cela au siècle dernier, on y a beaucoup travaillé sur notamment la structure donc de la Voie lactée, et encore maintenant dans les livres on cite les chercheurs de l'Observatoire de Marseille, donc c'est loin d'être un observatoire de second ordre. Bien, je vous parlerai de Michel Marcellin un petit peu mieux tout à l'heure, mais je vais vous parler un petit peu de la Voie lactée, parce que c'est toujours pareil, ce qui nous est proche, eh bien, on ne s'y intéresse moins peut-être que ce qui nous est très lointain, et on connaît souvent mieux les autres galaxies. Alors déjà, il faut savoir que avant qu'on sache qu'on faisait partie d'une galaxie et que le Soleil était une étoile parmi des centaines de milliards qui forment une espèce de grosse lentille, de grand disque qu'on appelle une galaxie, eh bien ça a duré pratiquement jusqu'au XXe siècle. Hein. On trouve encore des... Moi j'ai un bouquin de géologie qui date des années 60, où l'on parle encore des nébuleuses spirales, parce que pour les astronomes, dans le ciel, il y avait des étoiles, il y avait des planètes, et puis il y avait des petites taches floues qu'on appelait des nébuleuses. Et sans distinction, on parlait de nébuleuses pour parler des nébuleuses de la galaxie, l'intérieur de la galaxie, des nuages de gaz, des nuages de fumée, et de ces fameuses nébuleuses qu'on a appelées plus tard des nébuleuses spirales, parce que la plupart avaient justement... des formes de spirales, montraient des bras spiraux, par exemple la galaxie d'Andromède ou la galaxie du triangle M33.
Écoutez les gens, il y a des réponses dans ce qu'il dit.
Non, mais je ne vais pas donner les réponses.
Il y a aussi des fausses pistes.
Il y a des fausses pistes, voilà.
Non, il faut dire simplement, pour t'illustrer, c'est que Messier, le fameux Messier, le découvreur de comètes, qui cherchait les comètes, a fait un catalogue de nébulosités, comme il l'appelait lui-même.
D'objets diffus.
Et nébuleux. En fait, dedans, si vous prenez un catalogue de Messier, tous les numéros de galaxies qui sont M1, M2, M3, etc. Oui, puis il y a des galaxies, des nébuleuses, il y a un peu de tout.
Voilà.
Parce qu'en fait, à l'époque, on ne faisait pas la différence entre une nébulosité et maintenant ce qu'on appelle une nébuleuse, une galaxie, etc.
Alors je vais vous raconter juste un petit peu quelques anecdotes là pour les friandises de fin d'émission. Pour les Égyptiens, la Voie lactée était l'œuvre d'Isis qui répandait de grandes quantités de blé dans le ciel. Pour les Incas, fascinés par les métaux précieux, ils se l'imaginaient comme une traînée d'or fin. Ils ne pouvaient pas faire autrement, et fascinés par l'or. Pour les Esquimaux, c'était évidemment une bande de neige céleste. Et les Arabes, rêvant de déserts desséchés, croyaient que la Voie lactée était un grand fleuve. Enfin, pour certains Indiens, c'était le fond d'un ruisseau brouillé par les ébats d'une tortue cosmique.
Une tortue.
Vous voyez que y a une tortue. Pourquoi une tortue, je ne saurais vous le dire. Bref, et vous savez qui c'est qui, pour la première fois, aurait formulé l'hypothèse de la Voie lactée comme étant la lueur du rassemblement d'innombrables étoiles ?
Non.
C'est un Grec nommé Démocrite en 460 avant Jésus-Christ. Il est né en 460, donc 4 siècles avant notre ère. C'est incroyable. Il a fallu attendre justement Galilée, qui va définitivement montrer que la Voie lactée, en fait, c'est un nuage d'étoiles à l'aide d'un instrument qui s'appelle le télescope, tout simplement. Et là, il n'y a plus de contestation possible. On ne peut pas se tromper. Alors, bien sûr, entre la découverte de Galilée, la Voie lactée est un nuage d'étoiles, et la forme de la Voie lactée, il a fallu attendre déjà Herschel. Alors Herschel et d'autres à son époque, comme Emmanuel Kant d'ailleurs, effectivement avaient émis des hypothèses sur la Voie lactée, mais eux, ils étaient trompés par le fait, vous savez, dans la Voie lactée, il y a des nuages de gaz, donc ce qui fait que quand on est sur la Terre, dans le système solaire, on voit que les 3000 étoiles les plus proches, et puis on s'imagine que autour de nous, on est un peu à égale distance des extrémités de la Voie lactée, ce qui fait que Herschel a fait un dessin où il représente la Voie lactée et le Soleil au centre. Or, c'est bien sûr faux, puisque vous savez qu'on est un petit peu sur le bord. Alors maintenant, je vous dirais tout de suite qu'on n'est pas dans un des bras. On n'est pas dans le bras d'Orion. Moi, j'ai découvert ça aujourd'hui. On n'est pas dans le bras d'Orion de la galaxie. Qui a établi ça? Qui a découvert ça? Ce sont les chercheurs de l'Observatoire de Marseille. Ils ont démontré
ils ont trouvé 4 bras, en fait.
Ils ont découvert qu'on était sur une espèce d'excroissance qui n'avait rien à voir avec un bras. Et bref, c'est pas du tout ce que l'on croyait.
Est-ce qu'on va parler Michel Marcellin vendredi?
Et Michel Marcellin va nous en parler. Donc maintenant, je vous rappellerai simplement quelques faits. Bien sûr, la galaxie, c'est 200 milliards de soleils. Alors, c'est pas 200 milliards d'étoiles, c'est 200 milliards de fois la masse du soleil. Ce qui équivaut à une centaine de milliards d'étoiles, tout confondu. Elle a 100 000 années-lumière de diamètre, donc c'est pas rien du tout. Et puis, autre chose, nous tournons autour du centre de la Voie lactée, nous, c'est-à-dire le système solaire, à quelque chose comme 200 km secondes. C'est une vitesse impressionnante, 200 km secondes. Eh bien, il nous faut 200 millions d'années pour faire le tour de la galaxie.
Ça n'explique pas la taille.
Voilà. Donc voici quelques trucs comme ça. Alors, bien entendu, la structure de la Voie lactée. Alors, Michel Marcellin va nous dire comment et par quelle technique on établit la structure de notre Voie lactée, puisqu'on est dedans, c'est pas facile. Alors, comment font-ils? Eh ben, ça paraît simple comme ça, mais enfin bon, c'est simple quand même dans le principe. On regarde d'abord les grands nuages d'hydrogène. Et notamment, on les regarde, même ceux qui sont, on regarde à travers les nuages, comment? Par les ondes radio, par la radioastronomie, on regarde la raie 21 cm de l'hydrogène, et on regarde aussi d'autres raies, alors bon, je ne vous raconte pas le détail, et on s'aperçoit qu'il y a des nuages qui vont plus ou moins vite, c'est-à-dire à partir du décalage, encore une fois, la spectroscopie. Et on sait qu'il y a des nuages qui sont loin et qui vont à telle vitesse, qui sont plus près, et c'est comme ça que l'on reconstitue la structure de la Voie lactée. Et c'est une autre conférence qui vous racontera ce qu'il y a dans le cœur de la Voie lactée. Alors donc, vendredi, Michel Marcellin racontera l'épopée de l'Observatoire de Marseille, comment ont été faites les découvertes récentes sur la structure de la Voie lactée. On croyait tout connaître, eh bien, on va encore en apprendre. Et là, c'est de la recherche contemporaine. C'est quelqu'un qui a été dans les plus grands observatoires du monde. C'est un auteur à succès. Il a écrit des livres fabuleux sur l'astronomie pour les débutants, les moins débutants. Enfin, c'est quelqu'un d'étonnant, Michel Marcellin. C'est vraiment un passionné. Et c'est un ancien astronome amateur, ce qui ne gâte rien.
La conférence, ça se déroule où?
Elle se déroule à l'Ifremer, donc c'est à l'amphithéâtre de l'Ifremer. L'Ifremer se trouve près de l'école centrale. Si vous venez en tram, c'est l'arrêt de tram Subdeco École Centrale. Voilà. Et sinon, en voiture, c'est près du petit rond-point de la Noé, lorsque vous, après le petit port, entre voilà. le petit port et la Genelière, vous prenez la rue de l'Île-Dieu, la grille sera ouverte et nous vous accueillerons avec plaisir à l'Ifremer vendredi
à
20, soir.
À 21h.
À 21h. À partir de 21h. Enfin,
c'est à 21h.
Venez un petit peu avant si vous êtes sûr d'avoir une place, parce que je crois que ça a du succès déjà. Hein.
Je ne sais pas si le succès téléphonique, on va voir. On va demander à nos gars de la régie de montrer les panneaux des gagnants, s'il y en a. Ah bah apparemment il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un, bah c'est pas grave. Donc c'est Nicolas Blin qui habite à Vertoux, voilà, il a gagné une place gratuite, lui il a téléphoné, et surtout il a donné la bonne réponse, qu'apparemment il n'y a pas grand monde qui a donné
la
bonne réponse.
Alors on va quand même donner la réponse.
Je répète la question, puis Daniel va donner la réponse. Hormis la Voie lactée, quelles sont les seules galaxies visibles à l'œil nu depuis la Terre? Donc il fallait simplement téléphoner et nous dire.
Il fallait nous dire, eh bien la galaxie d'Andromède, dans la constellation du même nom, hein, la galaxie d'Andromède visible à l'œil nu, bien
de
sûr.
De l'hémisphère nord.
De l'hémisphère nord, et bien entendu. De l'hémisphère sud, les deux magnifiques galaxies qu'on appelle les nuages de Magellan.
Le petit et le grand.
Le petit et le grand nuage de Magellan qui sont autour de la Croix du Sud, en gros. Hein, c'est dans l'hémisphère sud, bien sûr. Ah oui.
Dans l'hémisphère sud, mais ils sont quand même observables dans l'hémisphère nord. Hein.
Oui, il faut descendre assez bas, bien sûr. Ouais. Il faut descendre assez bas en latitude et on les voit, on finit par les voir. Et ce sont des galaxies satellites de la Voie lactée qui sont à peu près 160 000 années-lumière pour le grand nuage. Ah oui, l'autre, je ne sais plus.
Pour ceux apparemment, il y a des gens qui ont répondu M33. Je vous rappelle que M33 n'est pas du tout visible à l'œil nu.
N'est pas visible à l'œil nu. Hein, Frédéric, ça, tu voilà. serais heureux, toi, de voir.
Vraiment dans des ciels avec de très très bonnes conditions, peut-être.
Voilà, mais c'est vraiment. Mais on considère qu'il est
pas oui, enfin, considéré comme une galaxie visible.
Voilà. Si vous avez répondu M33, mais en citant les autres, quand même, qui sont plus évidentes, on vous pardonnera. Mais si vous avez cité que M33,
ça n'a pas marché.
Du triangle, ça ne marche pas. Oui.
Merci à tous les participants de cette émission. Merci à Vincent Gendron et à Frédéric Cavagnier qui ont assuré la technique, qui sont d'ailleurs leur miroir derrière. Merci à ceux aussi qui vous ont accueillis au téléphone pour recevoir vos réponses. La prochaine émission Pulsade aura lieu le 27 novembre. Rendez-vous vendredi pour la conférence de Michel Marcellin à l'Ifremer. Et ensuite, on ira voir les Léonides, c'est ça ?
Jusqu'à la fin de la nuit.
Jusqu'à la fin de la nuit. Allez sur le site internet de la SAN, hein, san-fr.com, vous aurez notamment le descriptif de la conférence de Michel Marcellin, une explication, etc. N'oubliez pas le dicton du jour, à la Saint-Brice, c'est un dicton qui est valable pour toute l'année, alors attention, à la Saint-Brice, l'astrologie est une science factice.